Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR News.
Edition Sandin de la House.
Radio Rosana Piperi.
Lo que se reproduce y esto en la radio.
France Inter. Le 18-20.
J'ai le monastère tatoué dans mon cœur. J'appelle ça ma maison maternelle. C'est elle que je dois quitter. Non mais...
Le monastère tatoué dans la peau, c'est bon, non? C'est un déchirement pour cette Ursuline québécoise. Trop peu de sœurs, trop grand couvent, ils se vident les uns après les autres pour ben une autre forme de vocation hein, qui va du yoga jusqu'aux start-up. C'est l'escale reportage dans un instant d'Un jour dans le monde. Sous les radars et Amélie Perrier, un genou à terre comme les joueurs de foot américains et Nike qui prend position. Nous sommes aussi de l'autre côté de la Manche avec une femme voilée au concours de Miss Angleterre. 18h50, le cinéma en VO et Corinne Pellissier qui va parler de quel film, de quel docu, un petit indice peut-être. C'est bon, vous l'avez. 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four qui s'intéresse au prélèvement à la source. Pourquoi c'est si compliqué chez nous alors que tout le monde autour de nous l'a fait? En attendant, direction la Syrie, direction le dernier bastion rebelle qui attend son funeste sort, on va dire ça comme ça. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
L'aviation russe a bombardé hier ce qu'elle appelle des cibles terroristes à Idlib, donc dernier grand bastion insurgé du nord-ouest de la Syrie. Preuve que, j'allais dire que l'offensive a commencé. Bien sûr qu'il y a déjà eu des bombardements depuis des mois sur Idlib qui ont cessé ces derniers temps, puis qui ont repris là avec les Russes, bombardements qui sont ou pas loin le signal peut-être du départ de la grande offensive. On va voir ça dans un instant. Ce qui veut dire aussi la fin pure et simple, dernier acte de cette guerre ou pas, l'élimination du dernier bastion de résistance au régime syrien. Mais tout ça, évidemment, est toujours beaucoup plus compliqué, et surtout dans quelles conditions tout cela se fait. Bonsoir, Basma Khodmani.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, directrice du think tank Arab Reform Initiative. Vous êtes membre du comité des négociations de l'opposition syrienne. De fait, alors, je le disais, les bombardements n'ont jamais cessé, évidemment, sur cette partie de la Syrie. De fait, est-ce que vous dites, vous, que la dernière offensive contre Idlib, est-ce qu'on dit qu'elle a commencé avec ces bombardements russes ou on n'en sait rien encore?
Écoutez, ce que l'on sait, c'est que personne n'a prévu un plan au cours des deux ou trois dernières années, depuis que l'on parle d'Idlib, depuis que l'on déverse sur Idlib des populations mm-hmm. qui viennent de toutes les régions de Syrie. Aujourd'hui, toute la Syrie est concentrée à Idlib.
Ça veut dire qu'il y a partout. Presque 1 million de déplacés qui vivent à Idlib, en plus de la population d'Idlib, en fait.
Nous avons 3 millions mm-hmm. à peu près d'habitants aujourd'hui, dont 1 million sont des déplacés d'autres régions qui sont venus là. Or, on sait que des extrémistes, des terroristes se sont implantés très solidement dans cette région. Voilà 3 ans que les Syriens alertent contre ces groupes. Voilà 3 ans, et je vous dis, nous avons été, nous Syriens, moi personnellement, avec un groupe, à travailler sur la manière dont on peut se débarrasser de ces terroristes sans toucher les populations civiles. Or, aujourd'hui, personne n'a pris en compte la possibilité pourrait être ce type d'opération qui éviterait les cibles civiles.
Ça veut dire qu'on ne parle pas de couloir, on ne parle de rien pour l'instant, en fait.
Il y avait moyen, on ne peut pas rentrer dans les détails. Il y avait un plan militaire détaillé qui a été présenté au pays, dit garant de la stabilité ou de la désescalade dans cette zone, la Russie et la Turquie. Elles n'ont pas pris en compte ce plan. Elles sont aujourd'hui devant ce constat. Nous sommes obligés de bombarder aveuglément. Il faut savoir que la population elle-même a toujours dit éradiquer, et nous le savons, éradiquer le terrorisme dans cette région, ça ne sera pas par des bombardements, parce que la topographie de cette région ne le permettra pas. Dans 20 ans, nous en serons encore en train de bombarder sans résultat.
Et pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, Basma Khodmani, on parle d'une branche d'Al-Qaïda d'abord, grosso modo, et on parle de combien? 10 000 personnes en fait, 10 000 de ces djihadistes, oui. Peut-être un peu plus,
Peut-être un peu plus, peu importe leur nombre, mais ils sont autour de ce chiffre-là. Il y a Al-Qaïda, il y a des séquelles de Daesh qui se sont installées là, qui ont muté et qui ont pris d'autres appellations, qui sont présents. Donc la population le sait, elle sort pacifiquement dans les rues avec beaucoup de courage pour dire à ces gens-là dehors, et elle arrive à les expulser par des manifestations pacifiques. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que la population civile est un acteur majeur de la lutte contre le terrorisme et non des victimes qui devront être les collatéraux des bombardements.
Jean-Yves Le Drian l'a dit, c'était sur cette antenne sur France Inter, vous l'avez peut-être entendu, il a dit s'il y a offensive, Alep, à côté, c'était rien. Est-ce que vous allez dans ce sens-là aussi? Est-ce que vous diriez oui, ce sera pire que Mossoul, ce sera pire qu'Alep, ce sera pire que ce qu'on a vu précédemment quand il s'est agi d'aller chercher une ville?
Oui, ce sera pire et ce sera surtout sans résultat. C'est une région qui, historiquement, a toujours été un fief de résistance, même à l'époque du mandat français, quand les Syriens ne voulaient pas des Français. C'est cette région à résister. Pourquoi ? Parce que il y a une telle topographie qu'il est impossible. Un bombardement ne donne aucun résultat. Un missile qui tombe n'a pas d'effet. C'est Tora Bora d'Afghanistan, c'est le Kandahar, c'est, je ne sais pas comment le décrire, mais voilà, cette région est connue pour ne pas être possible d'accès sans opération terrestre majeure. Or, qui va mener ces opérations terrestres ? C'est là toute la question. On risque d'empoisonner bien plus encore la situation et l'extrémisme.
Et on va y venir à ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire le rôle des Russes, celui des Turcs aussi, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans cet endroit-là. Est-ce que Joëlle Bassoul est avec nous ? Bonsoir, Madame Bassoul.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de l'ONG CARE en Syrie, vous êtes basée à Beyrouth. J'aimerais votre compréhension, vous, de ce qui se passe en ce moment à Idlib, et surtout, puisque vous êtes dans cette région, vous y avez des contacts permanents et réguliers. Qu'est-ce qu'on dit, cette population civile dont on parlait à l'instant avec Basma Kodmani, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce que vous entendez, quelle est sa crainte, qu'est-ce qui se passe là-bas pour eux pour l'instant ?
Les civils avec lesquels on travaille à Idlib sont dans l'attente pour l'instant. Ils sentaient qu'ils allaient être les suivants dans la tentative du gouvernement syrien de reprendre tout le territoire. Comme vous l'avez dit, la moitié presque de la population actuellement à Idlib et sa région, c'est des déplacés, des gens qui ont déjà tout quitté, tout fui, leur maison, leur propriété, leur travail, pour vivre dans des mosquées, des écoles et même sous les tentes, hiver comme été, dans des conditions très difficiles. Donc déjà, c'est des personnes assez vulnérables qui ont besoin d'aide humanitaire et de soutien et qui voient arriver les avions dans le ciel avec beaucoup de crainte et très peu d'espoir.
Est-ce qu'on craint aussi, parce que les mots ont été prononcés, est-ce qu'on craint une attaque chimique de la part du régime syrien ? Est-ce qu'on en parle dans les rues d'Idlib ou pas ?
Alors nous, comme organisation humanitaire, on peut pas prévoir la tactique militaire du régime syrien. Il y a eu déjà plusieurs attaques.
Non, mais on l'a déjà vu faire.
Voilà, au cours des dernières années de guerre. Ce que la population craint, comme l'a dit Madame Kodmani, c'est des bombes qui tombent du ciel sans aucune distinction entre les combattants et les civils. Et ça, c'est très difficile sur un territoire qui accueille aujourd'hui 3 millions de personnes, et ça, ce sont les chiffres de l'ONU, de faire une distinction très précise. On l'a vu hier, il y a eu des raids, et on a entendu parler d'une école qui a été atteinte et d'une famille entière qui a été tuée dans les raids. Donc oui, la population civile va payer le prix en cas d'offensive militaire d'envergure.
Est-ce que vous avez le sentiment, vous, et de ce que vous entendez des gens aussi, est-ce qu'ils ont eu le sentiment qu'un accord politique est encore possible, un moyen diplomatique est encore possible ?
Alors, il y a vendredi plusieurs réunions, il y en a une à Téhéran et l'autre à New York du Conseil de sécurité pour essayer de parler de ça et de résoudre le conflit de façon plus diplomatique que par les bombes. Jusqu'à présent, la Russie a mis son veto à toute résolution sur la Syrie. La dernière fois qu'elle a une résolution, c'était en février. Pour les gens qui sont sur le terrain, pour les travailleurs humanitaires avec lesquels nous, on travaille, il y a peu d'espoir sur le front politique, même s'ils attendent tous les réunions de vendredi.
Merci beaucoup, Joëlle Bassoul. Basma Kodmani, on le disait, la clé, elle est entre les Russes et les Turcs principalement. On est sur la frontière turque. D'ailleurs, le seul moyen pour que les civils évacuent finalement, ce serait que les Turcs puissent ouvrir leurs frontières. Il va y avoir une rencontre entre Russes et Turcs. Ça va se passer à Téhéran le 7 septembre. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de cette réunion entre Turcs et Russes ou pas ? Parce que nous, autant le dire tout de suite, on compte pas, nous, dans cette équation-là. Nous, Europe.
Non, ce sont ces deux pays-là qui sont décisifs. La Russie, si elle décide d'appuyer le régime, et la Turquie, si elle décide de laisser faire, puisque c'est elle qui contrôle cette région. Ce que l'on peut espérer de ces réunions du vendredi, à Téhéran comme à New York, mais surtout à Téhéran, c'est que les deux pays, la Turquie et la Russie, reportent la date de cette opération. Le régime est évidemment impatient. Le régime a peur de perdre les soutiens qu'il a de l'Iran et de la Russie. Or, une offensive avec des forces iraniennes chiites, il faut savoir que c'est jeter de l'huile sur le feu dans cette région qui est entièrement sunnite. Alors, on ne va pas parler de confessionnalisme tout le temps, mais tout de même, si on va mettre des milices sectaires, confessionnelles pour attaquer, on est devant vraiment la recette pour un désastre total. occidentale. Donc on espère que ce sera reporté. La réponse n'est pas facile. Elle doit être préparée militairement, minutieusement, et elle doit mettre à contribution la population, qui est le meilleur indicateur de ce qui peut être fait.
Qu'est-ce qui permettrait aux Russes, qu'est-ce qui ferait que les Russes reportent cette opération? Qu'est-ce qui les motive pour, qu'est-ce qui peut les motiver pour reporter cette opération?
Écoutez, la Turquie a des moyens de travailler avec certains groupes sur le terrain pour démanteler certains groupes extrémistes. Elle a les moyens d'appuyer la population civile pour expulser des zones de concentration de population les terroristes, pour les pousser vers le front, parce que c'est cela qui doit se produire. Or, ces gars-là se cachent au milieu de la population civile. Donc, il faut compter sur les civils pour les expulser. Et ensuite, peut-être il y aura des bombardements résiduels. Mais ce que nous disent les habitants, c'est que personne n'est sérieux dans cette lutte contre le terrorisme. Chacun dit on va blanchir notre image, simplement devant les médias, devant la communauté internationale, en disant « nous avons bombardé les terroristes ». Seront-ils éradiqués? Seront-ils, la région sera-t-elle débarrassée des terroristes? La réponse est non, et tout le monde le sait. Mais on est là pour faire une démonstration de force et permettre au régime de reprendre la main dans cette zone.
Et c'est pour ça que je vous posais la question. Pourquoi est-ce que les Russes éviteraient de reculer ce moment-là aussi? Le moment où, effectivement, c'est bon, c'est fini, la démonstration de force, elle est faite, et Assad est remis là où il était avant le début de la guerre. Donc oui, pourquoi reculer ce moment-là, en gros?
Je disais, Assad est pressé parce qu'il sait que les Russes sont pressés. On sait que M. Poutine aimerait bien, le plus vite possible, déclarer la fin de la guerre en Syrie et son retrait. Le retrait de ceux qu'il voudra retirer, mais annoncer que c'est une victoire militaire. Vous voyez, cet effet d'annonce, et on le fait au prix du vrai résultat sur le terrain. C'est comme quand on a annoncé que Daesh était fini. Daesh n'est pas fini. Nous le savons tous, et les Américains ont fini par l'admettre. Donc aujourd'hui, on est devant la même situation. Si l'on veut sauver cette région, il faut qu'il y ait un vrai plan militaire et social qui va mettre ces éléments hors des zones d'habitation de manière à pouvoir les cibler de manière résiduelle et non pas par des bombardements aveugles, car on sait que le scénario est toujours le même. Les hôpitaux, les fours, les boulangeries, les écoles, pour démoraliser la population et ensuite faire en sorte qu'elle s'en aille. Pour aller où, on ne sait pas.
Alors justement, oui, pour aller où, parce que maintenant, effectivement, l'étranglement, il est là, puisque comme vous le rappeliez, on a envoyé toutes ces populations vers Idlib. Il y a eu beaucoup de mises en garde de la part des capitales occidentales. Il y en a eu une même de la part de Trump, c'était il y a 48 heures. Est-ce que tout cela, c'est de la pure forme, selon vous, ou est-ce qu'il reste quand même une carte à jouer?
S'il n'y a pas d'action, la Russie a compris que les Occidentaux ne feront que protester et que elle, le régime et les Iraniens pourront continuer. S'il n'y a pas d'action, ça ne sert à rien.
Et même sur cet après, parce que c'est ça aussi que vous le disiez que font les Russes, c'est préparer cet après-là, est-ce qu'il peut y avoir un autre après que celui qui est préparé par les Russes, c'est-à-dire un président syrien qui retrouve sa place là où elle est, quitte à ce que nous, on reconstruise, en gros, ici et là?
Oh, je crois que rien n'est joué. C'est un chapitre de la guerre qui se termine. J'espère que c'est le chapitre le plus violent qui se termine, mais nous ouvrons un nouveau chapitre. Pourront-ils revenir avec Assad et le remettre en selle pour qu'il gouverne? C'est une toute autre question.
Qu'il est possible que ce ne soit pas le cas?
Oui, oh oui, oh oui. Assad ne pourra jamais regouverner ce pays en mettant toute la population sous sa botte. Nous sommes donc face à un nouveau chapitre inconnu. Personne ne sait ce qui se passera, mais ce n'est certainement pas la fin du conflit.
En tout cas, le chapitre n'est pas fini et on le suivra. Évidemment, il y a cette offensive à venir où on verra sous quelle forme elle prendra et à quel moment. Merci beaucoup, Basma Khodmani, de votre passage d'un jour dans le monde. Merci à Joël Bassoul aussi qui était à Beyrouth en ce moment, porte-parole de l'ONG CARE en Syrie.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde, en reportage à Québec avec des Ursulines, figurez-vous, qui vont devoir quitter leur couvent alors qu'elles y sont depuis des siècles, mais pas assez de sœurs. Donc l'endroit ferait une très belle start-up. Sous les radars, et Amélie Perrier, genou à terre pour une nouvelle saison, les footballeurs et l'équipementier Nike qui assume, vous verrez comment. Vous verrez aussi qu'une femme en hijab est ouverte au concours de Miss Angleterre. Comme tous les mercredis, le cinéma en VO, c'est vous Corinne Policier, bonsoir.
Bonsoir.
Avec un documentaire et une voix ce soir.
Oui, j'avais envie de vous proposer un karaoké, réviser vos classiques tubes des années 80, plutôt du côté des chanteuses à la voix puissante.
Oui, on voit à peu près.
I wanna dance
Voilà, par exemple. Le monde à l'envers, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
On est à fond dans l'impôt à la source, nous. Mais nos voisins, eux, l'ont fait depuis extrêmement longtemps.
C'est
en
ça,
fait.
Ce soir, c'est pas le monde à l'envers, c'est la France à l'envers. Parce qu'effectivement, chez nos voisins, tout le monde fait du prélèvement à la source. Nous sommes le village Astérix.
Allez, le tour du monde se poursuit, ce sera tout à l'heure 18h55, Jean-Marc. Le tour du monde se poursuit dans Un jour dans le monde, il passe par Long Island avec les Lemon Twigs, Small Victories sur France Inter. Bonne soirée avec nous. Victories, les petites victoires des Lemon Twigs sur France Inter. Allez, Amélie Perrier est là sous les radars, c'est maintenant.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasimo Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Amélie, mettre le feu à ses chaussures. C'est le nouveau geste politique fort aux États-Unis.
Et voilà le genre de vidéos qui fleurissent en ce moment sur les réseaux sociaux. Des paires de baskets en flammes, des paires de Nike.
Sorry, Nike. I've been buying you for the past 20 plus years.
Ah, désolé Nike, j'achète ta marque depuis 20 ans, mais là c'est fini. Just do it est devenu just burn it sur la toile. Une réponse à la dernière campagne de l'équipementier. Il a choisi le visage de Colin Kaepernick. À San Francisco, Nike a installé un immense panneau publicitaire avec le portrait de Kaepernick et ce message: croyez en quelque chose même si ça signifie tout sacrifier. Kaepernick, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce joueur de football américain, souvent coiffé d'une afro imposante. Mm-hmm. il avait fait scandale il y a 2 ans quand il avait refusé de se lever pour l'hymne national. Un genou à terre avant un match pour protester contre les violences policières, des violences souvent contre les Noirs américains. Depuis, il n'a pas joué en NFL. Il a poursuivi la fédération. Alors le choix de Nike scandalise certains, dont ce vétéran de la guerre en Irak interrogé sur Fox News. Sergent Robert Bartlett, il demande si vous ne vous levez pas pour le drapeau, que vous n'en avez rien à faire du drapeau et de tout ce qui vous a apporté la liberté. Alors pourquoi allez-vous vous lever? Pour le drapeau communiste, pour d'autres pays ou pour Ahmadinejad? Pour qui allez-vous vous lever? Car oui, le coup commercial de Nike prend des allures politiques, diplomatiques même. Hier, l'ex-président iranien Ahmadinejad, justement, a tweeté « La saison de NFL va débuter cette semaine, malheureusement sans Kaepernick une fois encore, même s'il est l'un des meilleurs quarterbacks de la Ligue. » Ouais, Ahmadinejad, il regarde la NFL.
Il n'est pas fou, Ahmadinejad.
Effectivement.
Ouais.
On le voit partout en Iran.
Effectivement. Et le championnat de football américain.
Il tweet à la Trump.
Exactement. Il reprend demain donc le championnat de football américain. La Ligue, elle n'a pas trouvé de solution juridique pour faire respecter l'hymne en début de match. Quant au titre de Nike en bourse, eh bien, il a perdu plus de 3% hier.
Allez, au Bénin, les partis politiques sont appelés à faire leur compte.
Car le nouveau code électoral ne plaît pas à tout le monde. Il impose désormais à chaque parti de déposer une caution de 250 millions de francs CFA. C'est l'équivalent de 380 000 euros. La note, en fait, a été multipliée par 30. Écoutez les explications du rapporteur général de la commission des finances, le député Gérard Benanchi.
C'est d'inciter, de motiver au regroupement des partis politiques pour mettre fin à l'émiettement de la classe politique, pour que nous en finissions avec ces partis de famille, ces partis de coquins, de copains, qu'on en finisse avec. Ce que un seul parti faisait en payant 8 300 000, si je fais un petit calcul, si je fais 8 300 000 fois 40, ça me fait 332 millions. Déjà, ça veut dire qu'on aurait pu exiger 332 millions, mais on a dit 200 millions. Pour cautionner la liste. Vous voyez, à ce niveau, il y a déjà économie pour les partis politiques.
Vous avez compris, Fabienne, quand on multiplie par 30, c'est une économie.
Ouais, j'ai moyen compris, je peux dire. Enfin bon.
Mais justement, dans l'opposition, on n'a pas la même approche non plus des mathématiques. Les élus accusent le pouvoir de se tailler un code électoral sur mesure pour le président Patrice Talon, l'une des plus grosses fortunes du Bénin. Alors, les législatives, c'est l'an prochain et la présidentielle, ce sera en 2020.
Un concours de beauté pour continuer, Amélie.
Avec une miss tout droit venue du centre de l'Angleterre. Alors salut tout le monde, je m'appelle Sarah Iftekhar, je suis Miss Huddersfield. Aujourd'hui je vais vous présenter l'une de mes passions depuis que je suis toute petite, le maquillage. Alors j'espère que vous allez aimer mon relooking, restez à l'écoute.
Donc alors, à première vue, ouais. C'est tout normal.
Oui, c'est une Miss quoi, avec du maquillage, très très jolie. Hein. Sauf que Sarah, eh bien, elle est voilée, elle est la première candidate voilée à la finale du concours de beauté Miss Angleterre. Une manière de changer la perception des femmes portant un hijab, estime des féministes britanniques. Un concours très ouvert car parmi les concurrentes de Sarah, il y a aussi une jeune femme qui a arboré sans tabou ses cicatrices au bras et à l'épaule après avoir été victime d'une attaque à l'acide. Un mot pour finir, pour saluer la mémoire d'un grand nom de la science dont la mort est passée un petit peu inaperçue, c'est Luigi Luca Cavalli-Sforza. Il est mort il y a quelques jours à l'âge de 96 ans. Cavalli-Sforza, c'était un généticien italien considéré comme le père de la géographie génétique. Il a été l'un des premiers à démontrer que le concept de race humaine n'avait aucune base scientifique. Il écrivait ceci, toutes les cruautés infligées au monde au nom de la diversité raciale ne sont, pour reprendre les mots de Macbeth, qu'une histoire racontée par un idiot pleine de fureur et de bruit et qui ne veut rien dire.
Voilà, ça va sans dire, mais ça va nettement mieux en le disant. Amélie Perrier, merci beaucoup. Sous les radars, on se retrouve demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Pékin, le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Voilà, vous avez compris, on ne va pas en boîte. Hein. Je vous emmène dans la province de Québec, je vous emmène dans un monastère, figurez-vous, chez les Ursulines, mais plus pour très longtemps. Là où je vous emmène, il en reste quoi, une cinquantaine des sœurs installées dans un couvent qui existe, lui, depuis 1639, mais tout le monde va devoir déménager. Ben oui, la crise des vocations, comme partout, pas assez de monde et trop de place. Sauf qu'ici, c'est peut-être plus rude qu'ailleurs. Bonsoir Pascal Guéricola.
Bonsoir Fabienne.
Pascal, il faut se rappeler que les sœurs, chez vous, ont très longtemps géré les hôpitaux, géré les écoles. C'était très important. Ces Ursulines-là ont même fondé la toute première école d'Amérique du Nord. Mais le bâtiment donc est beaucoup trop grand. Les sœurs sont beaucoup trop vieilles. Et désormais, tous ces bâtiments vont avoir une autre vocation qui va du yoga jusqu'à la start-up. On écoute votre reportage.
Le compte à rebours du nombre de messes auxquelles les Ursulines assistent chaque jour dans la chapelle historique de leur couvent a commencé. Le déménagement à venir pèse à Sœur André Leclerc, entrée au couvent en 1952.
J'ai le monastère tatoué dans mon cœur. J'appelle ça ma maison maternelle. C'est elle que je dois quitter, là, mais comme mes parents ont fait. Ont quitté aussi leur maison. Ouais.
L'école fondée par Marie de l'Incarnation vers 1640 dans le couvent des Ursulines fait toujours partie des lieux. Une crèche s'y est ajoutée, un musée sur la congrégation religieuse et des bureaux municipaux. Mais cet immense bâtiment manque encore de locataires, comme le déplore l'Ursuline, sœur Lise Monroe.
Parce qu'on voudrait vraiment que ça continue d'être une maison habitée, une maison dans laquelle il y a de la vie, que notre œuvre se poursuive.
Jusqu'aux années 60, les congrégations religieuses dirigeaient les hôpitaux et les écoles au Québec. Depuis l'arrivée de l'État-providence, le nombre de frères et sœurs a fondu de près de 90% et l'âge moyen dépasse maintenant largement les 80 ans. L'historienne Brigitte Collier de l'Université Laval.
Dans les toutes dernières années, on voit les communautés fermer, quitter leur monastère et se regrouper pour permettre aux dernières personnes de partir dans la dignité. Avec ce double deuil, c'est-à-dire les deuils qu'on fait tous lorsqu'on vieillit, mais aussi le deuil d'une vie communautaire. Il faut, à 90 ans, 80 ans, quand les sœurs se retrouvent dans une même maison de retraite, ben, il faut apprendre à vivre avec d'autres qui n'avaient pas forcément le même rythme de vie, le même rythme de prière, etc. Et souvent aussi avec des laïcs. C'est donc un changement aussi complet pour les derniers moments de leur vie.
Au fil des ans, certains couvents se sont transformés en appartements, en salles de sport, en écoles. Les Augustines, elles, fondatrices du premier hôpital au nord du Mexique, ont imaginé un hébergement tourné vers la santé globale.
Commençons par connecter avec le souffle, avec la respiration yogique complète.
Désormais, des cours de yoga et de relaxation ont lieu dans les voûtes du vénérable monastère. Et ceux et celles qui aident un proche malade disposent de chambres pour des séjours à prix modique. Une pause dont Catherine Paquette garde un souvenir unique.
Quand on arrive au monastère, tout est autour de la chapelle, l'ancienne chapelle. Donc, on voit en même temps qu'on est dans un lieu hors du commun. On dirait qu'on se laisse imprégner par ce qui règne. On dirait qu'on rentre dans un cocon où est-ce que automatiquement on a une acceptation inconditionnelle, comme on est pris en charge de façon inconditionnelle. Donc, on se laisse un peu porter quand on arrive là-bas, je trouve, par une espèce d'énergie, justement, là, qui prend automatiquement soin de nous.
À 1h30 de Québec, à Baie-Saint-Paul, le jardin et le couvent des petites franciscaines de Marie connaît lui aussi une nouvelle vie. Une auberge de jeunesse y a vu le jour, un hébergement pour les travailleurs du coin, un café, un musée, sans oublier un espace de co-travail, comme le raconte le directeur général Sylvain Gendreau.
Vous avez une transformation totale avec les tables de réfectoire qui donne 18 places de travail, avec la fibre optique 200 MB, avec des tables à pique-nique aussi pour prendre des pauses, des bin-bags. On a de la technologie pour qu'il y ait des rencontres avec tout le monde. Et souvent, on fait des présentations ici. C'est des grandes salles, c'est des petits lieux. Et on l'utilise de façon très, très hétéroclite. Et souvent, les jeunes entreprises font du réseautage ici. C'est qu'est-ce qu'on veut.
Baptisé la Maison Mère, ce nouveau lieu permet aux uns et aux autres de tisser des liens, une vocation en droite ligne avec celle des religieuses.
Voilà, garder la vocation des lieux, faute de garder les vocations. Un reportage signé Pascal Guéricola à Québec pour Un jour dans le monde. Merci Pascal. En voilà une, tiens, qui a vécu très loin des couvents, mais qui a été à la messe dans son Texas natal, si je ne m'abuse. Janis Joplin sur Inter. Moreover. Moreover, nous dit Janis Joplin sur France Inter. Ça n'a pas pris une ride, cette affaire. Allez, le cinéma en VO, c'est Corinne Pellissier et elle est là.
3, 2, 1,
France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action!
Un documentaire, Corinne, documentaire musique cette semaine au cinéma. Un son, une voix inimitable, un peu générationnelle, il faut bien le dire, très années 80, un peu comme les épaulettes des robes de scène ou des blazers même, parce que c'était encore des blazers à l'époque, mais il suffit de deux phrases musicales, de savoir exactement de qui on parle, à peine un tout petit bout de quelque chose. Stop ! C'est bon, on l'a, c'est elle, Corinne, c'est une signature qu'on vient d'entendre, on la reconnaît derrière rien. C'est bien d'ailleurs comme ça qu'ils ont joué avec la bande-annonce, on l'écoute d'abord avant de vous entendre, parce que ça aussi c'est un petit bijou audio. Moi, ça en finit pas de me fasciner, en fait, qu'il suffise de quelques petites notes pour qu'on... Il y en a pas beaucoup comme ça, pour qu'on sache exactement où on va. Whitney Houston, donc, Corinne, qui est morte il y a 6 ans, déjà, documentaire signé de Kevin MacDonald, c'est lui qui avait fait Le Dernier Roi d'Écosse, ce qui n'a rien à voir. Whitney, sa vie, ses notes très hautes, sa relation au tabloïd, à la drogue, tout est dit, zéro tabou.
Exactement, c'est un portrait sans phare, hein, rempli de témoignages. C'est d'ailleurs la force, hein, de ce documentaire. On y voit la mère de Whitney Houston, ses frères, ses musiciens, son producteur, qui reviennent bien évidemment sur les années de succès, les 200 millions d'albums qu'elle a vendus, les contrats records, les unes des magazines, les morceaux classés toujours au top des hit-parades. Et puis aussi les scandales étalés en une des tabloïdes et ses addictions qui ont conduit à ce jour tragique de février 2012, où le corps de Whitney Houston a été retrouvé inanimé dans un hôtel de Beverly Hills. Car derrière cette carrière extraordinaire, il y a cette femme remplie de fêlures que Kevin MacDonald a eu envie de nous faire découvrir.
Sa réputation a tellement souffert et même été détruite les 10 dernières années avant sa mort que plus personne ne la prenait au sérieux. Elle était devenue cette junkie en une des tabloïdes. Elle était si vulnérable. J'espère qu'en célébrant son talent, et qu'en montrant à nouveau la musicienne sérieuse qu'elle était, les gens auront de l'empathie, qu'ils la comprendront. Au fur et à mesure que le film avançait, j'ai réalisé moi-même à quel point elle était géniale, les quelques années où elle était au sommet de sa gloire. Elle avait une voix si puissante et remplie d'émotions. Elle s'est faite connaître en fait avec des morceaux très poppy bubblegum. Mais si elle avait choisi un autre style musical, on l'aurait sans doute regardée autrement, c'est sûr. Elle avait le potentiel pour devenir une grande chanteuse de jazz.
Et alors, il a raison, Corinne, mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec Whitney Houston en fait? Pourquoi tout le monde veut faire son docu? Pourquoi maintenant? D'ailleurs, on se souvient de celui de Netflix qui était plutôt très bien fait.
L'année dernière.
D'ailleurs, c'était l'année dernière. Mm-hmm.
Ouais. Et bien parce que c'est un personnage romanesque. C'est un symbole aussi pour la communauté noire américaine. Son interprétation de l'hymne national pendant le Super Bowl en 91 est restée dans l'histoire. Elle a transformé en chant de liberté. Et puis, aucune chanteuse n'a vendu autant de disques pour un seul tube. C'était en 1992, votre chanson préférée, la BO du film Bodyguard. D'exemplaires écoulés. Même Céline Dion n'a jamais pu égaler ce record. I Will Always Love You, le tube qui l'a propulsé dans la stratosphère, celui qui a fait d'elle une star et fait ressortir aussi le côté sombre. Son père qui a décroché pour elle un contrat à 100 millions de dollars, exorbitant pour l'époque, qui a essayé ensuite de lui voler son argent. Son mari Bobby Brown qui a mal vécu que la belle Whitney vienne faire de l'ombre à ses réussites personnelles. Et puis la drogue qui a toujours été là, mais a fini par prendre une place que personne n'a voulu voir et qui a constitué tout le défi du tournage de ce documentaire.
J'ai interviewé tant de monde, quelque chose comme 70 personnes. Ça ne m'était jamais arrivé pour aucun de mes documentaires avant. La plupart de ces gens ne figurent pas dans le film. On m'a raconté tellement de mensonges. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas sincères ou tentaient de se protéger, comme l'a fait longtemps son ancien publiciste, Lynn Volkman. Il l'a accompagné depuis le début de sa carrière, au début des années 80, jusqu'à sa mort. Il avait l'air tellement triste en m'avouant qu'il se sentait coupable. Pendant 25 ans, j'ai menti. À la presse, à tout le monde, tous les jours. Avait-elle une affaire de cœur avec une femme? J'ai menti. Prenait-elle de la drogue? J'ai menti. Je crois que tous ces mensonges ont joué un rôle dans sa disparition.
Voilà, portrait passionnant, un poil académique avec des interviews entrecoupées d'extraits, de chansons, d'images d'archives. Mais une vraie bulle d'air frais, on se sent rajeunir, non?
Eh ben oui. Voilà, moi j'ai 14 ans, je suis dans la cave. Il y a du cake. Merci beaucoup Corinne Pellissier. Au cinéma ce mercredi, ça s'appelle Whitney et c'est signé Kevin MacDonald.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse. Sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, le prélèvement à la source en France se fera donc le 1er janvier, on le sait depuis hier, puisqu'Edouard Philippe l'a confirmé. Puis du coup, vous avez voulu savoir ce que font nos voisins en la matière. Alors on savait déjà qu'ils étaient nombreux à l'avoir mis en place, mais alors la conclusion est quand même encore plus saisissante que ça. Et finalement, le monde à l'envers, c'est la France à l'envers, parce que le prélèvement à la source, tout le monde le fait sauf nous.
Regardez, je vous ai apporté en studio une Lohnsteuer-Anmeldung, on dit aussi Lohnsteuer-Karte. En Allemagne, toutes les personnes imposables possèdent ce document qui vous indique chaque mois le montant du prélèvement à la source. Et c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Alors là, vous allez me soupçonner de faire le service après-vente de la réforme portée par le gouvernement, mais je suis juste en train de faire un constat tout simple. Dans les pays comparables, le prélèvement à la source est la règle. Il est même installé depuis un certain temps dans plusieurs pays non occidentaux, comme la Tunisie par exemple. Et attendez, c'est pas fini. Il y a un autre constat encore plus saisissant, c'est que ce n'est pas une réforme récente chez nos voisins. Ça fait belle lurette. La toute première fois, c'était en Prusse en 1811. Mais si on parle de l'époque contemporaine, ça démarre au Canada il y a un siècle. Oui. Vous avez bien entendu, 1917. Ensuite, il y a l'Allemagne en 1925, les États-Unis, le Royaume-Uni en 1943 et 44, la Belgique en 62, l'Italie en 73, l'Espagne en 79. Enfin, ça fait 40 ans quand même. C'est simple, au sein de l'OCDE, qui regroupe les pays développés, donc seule la France et la Suisse sont restés à l'ancien système. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote révélatrice. En 2012, la Cour des comptes ressort le dossier, prélèvement à la source. Elle veut savoir comment s'est passée la transition chez nos voisins, quels problèmes se sont posés, etc. Ben, impossible d'obtenir des infos fiables des pays voisins, tout simplement parce que la transition remontait à beaucoup trop longtemps, il n'y a plus d'archives.
Alors, mais il y a évidemment plein de façons, c'est un peu facile, il y a plein de façons de faire du prélèvement à la source.
Hein. Absolument, ma chère Fabienne. Et là, il y a beaucoup de différences d'un pays à l'autre et ça peut éclairer les choix que la France doit faire aujourd'hui. Pour simplifier, il y a deux lignes de partage. La première porte sur le volume d'informations transmises à l'employeur. Est-ce qu'il est au courant ou pas de votre situation familiale, de votre patrimoine, etc. Vous avez des pays comme le Royaume-Uni où chacun est taxé de façon individuelle et du coup, votre employeur a relativement peu d'infos sur vous. À l'inverse, vous avez des pays comme l'Espagne, où la situation familiale est primordiale, et du coup, votre employeur sait si vous avez des enfants ou des parents à charge, si vous avez hypothéqué votre maison, si vous êtes marié, que sais-je. La deuxième ligne de partage porte sur le moment de l'ajustement fiscal dans l'année. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous avez ce prélèvement mensuel, mais à un moment donné, en cours d'année, il faut bien ajuster la somme, surtout si vos revenus ont évolué. Option 1, ça se fait en un coup, en fin d'année, style, on vous rembourse si vous avez trop payé. C'est le cas aux États-Unis. Option 2.
Ou alors vous payez, hein, si vous n'avez pas assez.
Oui, ou l'inverse, évidemment. Je prenais l'hypothèse optimiste. Option 2, l'ajustement est automatisé, permanent en cours d'année. C'est le cas au Japon. En tout cas, quel que soit le cas de figure, le principe du prélèvement à la source ne fait plus débat nulle part. Il fait partie du décor, si vous voulez, même dans les pays comme le Danemark où les débuts avaient été controversés. Et globalement, ça marche. C'est-à-dire que dans les pays qui l'ont mis en place, entre 80 et 95% de l'impôt sur le revenu sont effectivement perçus automatiquement grâce à ce système.
Mais alors pourquoi nous, on y vient maintenant? Pourquoi on est précisément les vrais réfractaires gaulois?
Ouais, vous allez me dire, Astérix a quand même raison contre tous les Romains. Oui, mais en même temps, ça interroge quand même quand tout le monde fait autrement. Mmh. Alors, il y a plusieurs raisons à cette spécificité. D'abord, la mise en œuvre de la réforme est rendue compliquée en France par la quantité innombrable de niches fiscales, la complexité de notre système d'imposition. Ensuite, vous savez qu'il y a un précédent en fait malheureux en France. C'était en 1940, on avait appelé ça le stoppage à la source. Eh oui, et 1940, c'est pas très bon dans notre inconscient collectif. Et puis, les spécialistes de la fiscalité disent c'est une question d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on gagne d'abord de l'argent, on l'épargne, très français, ça l'épargne. Et après, seulement après, on paye. Et puis, un dernier élément, l'enjeu fiscal est plus faible qu'ailleurs. Je m'explique. En France, l'impôt sur le revenu n'est pas l'impôt principal. C'est la TVA, le premier impôt. L'impôt sur le revenu, c'est un quart des recettes fiscales maximum. Ailleurs, c'est souvent beaucoup plus, 40 voire 50% du total. Et alors là, on touche du doigt un autre sujet, c'est les différences majeures d'un pays à l'autre en termes d'imposition. Et ce qui explique, c'est pas surprenant dans ces conditions que l'harmonisation fiscale n'avance pas dans l'Union européenne.
Le monde à l'envers de Jean-Marc Four dans Un jour dans le monde. Merci Jean-Marc. À demain, le 18-20. La suite, c'est le téléphone sonne.